Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe, Émilie, Patrick, Mathieu et moi-même et Mohamed. Salut à tous les quatre.
Bonsoir, Mohamed.
Alors, comme j'ai écorché votre nom, votre story du jour, Mohamed.
Alors, c'était attendu, c'est désormais officiel. Nicolas Sarkozy a annoncé son soutien à Emmanuel Macron. Une nouvelle crise politique au sein des Républicains. On verra tout ce soir.
Émilie, votre story, votre choix de l'actu du jour.
Je suis chez moi, c'est moi qui décide. C'est ce qu'a répondu Marine Le Pen quand elle était interrogée sur le fait de trier les journalistes lors de ses sorties, meetings et autres conférences de presse. Et c'était justement au cours d'une conférence de presse sur la démocratie et l'exercice du pouvoir.
On y revient, puis on soumet ce sujet à Raphaël Antoven, le philosophe, essayiste, cofondateur de l'hebdomadaire Franc-Tireur, qui sera dans un instant sur notre plateau. Patrick, vous bouillez de nous dire quel sera votre édito ce soir. Je vois bien vous trépigner.
Je vais regarder le système des retraites. On va soulever le capot et on va essayer de voir si il y a besoin de reculer l'âge légal ou de raser gratis en donnant la retraite à 60 ans.
Bah. Oui, parce que c'est l'un des sujets de cette campagne d'entre-deux-tours. On en parle avec Louis Alliot, vice-président du Rassemblement national, soutien de Marine Le Pen et maire de Perpignan. Mathieu, dans le 5 sur 5.
Des robots chiens pour contrôler votre passe sanitaire, des drones qui arrivent à la fenêtre en haut d'un gratte-ciel pour vous dire comment vous comporter, et puis des lits en carton. Je vous emmène voir Shanghai où 25 millions d'habitants sont confinés, poussés de Covid là-bas.
Oui, c'est pas de la science-fiction, hein, c'est la réalité là-bas.
Les habitants de Shanghai.
Nos invités après 20h, notre invité après 20h, Orlando, le frère et le garant de la mémoire de Dalida. Il nous parle du répertoire toujours très actuel d'une artiste qui est devenue une icône planétaire après sa disparition tragique. C'était il y a 35 ans déjà. Le dîner est préparé ce soir par Julie Chet, qu'on connaît bien, chef du Benvenguto.
Au Beau de Provence.
Là, au Beau de Provence, avec ce qui est de saison, des asperges.
Tout à fait. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et aujourd'hui, nous allons mettre en avant les asperges des Sables des Landes IGP.
Merci beaucoup, Julie. À tout à l'heure pour redire avec beaucoup de plaisir le nom de votre restaurant, le Benvenguto. Voilà, au Beau de Provence. Avec le pouvoir d'achat, la question de l'âge de la retraite est l'autre grand dossier de cette campagne d'entre-deux-tours. Marine Le Pen maintient la retraite à 62, mais veut permettre à ceux qui ont commencé à travailler tôt de la prendre dès 60 ans. Emmanuel Macron voulait progressivement reculer l'âge de départ de 62 à 65 ans, mais depuis hier, il s'est dit prêt à modifier sa réforme et à la soumettre à un référendum.
Je pourrais vous dire, si j'étais un démago et que je voulais me faire élire, je dirais on va faire 60 ans. Mais qui le finance? Vous payez plus de cotisations et vous réduisez votre pouvoir d'achat? Je demande aux retraités de baisser leur pension? Je ne suis pas magicien. Je n'exclus pas le référendum pour quelque réforme que ce soit.
Je ne verrai rien de scandaleux, bien au contraire, à ce que la réforme des retraites fasse l'objet d'un référendum. Il ne le fera pas si jamais il est élu. Je vous le dis. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas usé d'une seule fois du référendum durant 5 ans, parce qu'il y est fondamentalement opposé, parce qu'Emmanuel Macron a peur du peuple. C'est un somnifère à destination des électeurs de gauche à qui il cherche à faire prendre des vessies pour des lanternes.
Bonsoir Louis Alliot.
Bonsoir.
Merci de votre présence ce soir, vice-président du Rassemblement national. La question des retraites, on en parle avec vous, entre autres, c'est l'objet de l'édito de Patrick Cohen. Patrick, a-t-on réellement besoin de reculer l'âge légal pour sauver le système de retraite ou simplement pour le financer?
Non, si on s'en tient au rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui parle d'une trajectoire maîtrisée pour les décennies, le demi-siècle à venir. Le déficit du régime général a été réduit à 2,5 milliards d'euros l'an dernier sous l'effet du rebond économique. Et même si les comptes de l'assurance vieillesse devraient replonger l'an prochain, le déséquilibre paraît pour l'instant soutenable. Mais deux tendances lourdes compliquent l'équation. Le vieillissement inéluctable de la population. Aujourd'hui, 100 actifs cotisent pour 37 retraités. D'après l'INSEE, ce ratio passera à 51 en 2040 et à 57 en 2070. Et puis, deuxième mais, cette trajectoire maîtrisée dont parle le COR, elle prévoit une baisse du niveau des pensions, ici sur ce graphique, non pas en euros constants, mais par rapport au reste de la population, parce que les retraites sont indexées sur l'inflation et que sur le long terme, les prix augmentent moins vite que les salaires. Ça permet de financer le système par les cotisations assises sur les salaires et de compenser l'évolution démographique, mais cela va peser sur le niveau de vie des retraités.
Pour justifier le recul à 65 ans, Emmanuel Macron affirme que les Français travaillent déjà en moyenne jusqu'à 63 ans.
Non, ce n'est pas vrai. 63 ans, c'est l'âge moyen de liquidation quand on touche sa première pension, mais beaucoup de seniors ont arrêté de travailler avant, il serait 1 400 000 sans emploi ni retraite, dont un tiers sous le seuil de pauvreté. C'est d'ailleurs pour cela que reculer l'âge légal ferait faire des économies sur les retraites, mais des dépenses supplémentaires de chômage, d'invalidité ou d'arrêt maladie. Gain estimé de la mesure en 2027, 8 à 9 milliards d'euros avec lesquels Emmanuel Macron voudrait financer le grand âge et la dépendance.
Que propose Marine Le Pen ?
Un projet un peu moins coûteux et moins social que celui qu'elle défendait jusqu'en février, la retraite à 60 ans, mais seulement pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans et pendant 40 annuités. Au-delà, le système deviendrait progressif en fonction de votre entrée dans la vie active et de vos années de cotisation. Ceux qui ont commencé à travailler à 22 ans pourraient ainsi partir à 63 ans après 41 années de cotisation. À 24 ans, il faudrait 41 années et demie de cotisation, ce qui mettrait la retraite à presque 66 ans. 25 ans, retraite à 67 ans. Fin du dispositif carrière longue, fin du régime de pénibilité, maintien des régimes spéciaux à EDF ou à la RATP et annulation de l'essentiel des réformes adoptées depuis 20 ans. Coût estimé par l'équipe de la candidate 9 à 10 milliards d'euros. Coût estimé par l'Institut Montaigne, astronomique, 26 milliards d'euros par an.
Pourquoi ce serait si cher ?
Parce que ça toucherait tout de suite beaucoup de monde. La génération 1962 qui a eu ou qui aura 60 ans cette année a commencé à travailler jeune. 57% des natifs de 62 ans ont cotisé au moins un trimestre avant 20 ans. La réforme que propose Marine Le Pen ouvrirait le droit à la retraite de plusieurs centaines de milliers de personnes avec 2 ans d'avance, puisque cette génération doit normalement partir en 2024. Donc pour résumer, ça ferait plaisir à beaucoup de monde, comme beaucoup des mesures que vous proposez, Louis Alliot. Ça coûte un podium de dingue, mais c'est pas financé.
Si, parce que ce que vous dites n'est pas vrai.
Qu'est-ce qui n'est pas vrai ?
Tout état de cause, on part à 62 ans. Maximum. Donc vous partez à 62 ans quand vous avez la retraite, c'est tout.
Attendez, j'ai rien compris.
Si votre tableau, là, vous pouvez partir. C'est 62 ans. Après, vous partez à 62 ans. L'âge légal de possibilité de départ à la retraite, c'est 62 ans.
Marine Le Pen a annoncé qu'elle maintenait.
Regardez le programme de Marine.
Je l'ai regardé encore cet après-midi. J'ai même passé la journée dessus. Elle a annulé sa mesure de retraite à 60 ans.
Jusqu'à 20 ans, 40 annuités. Et après, l'âge légal de départ à la retraite, c'est 62 ans. Mais vous prenez la retraite au prorata de ce que vous avez cotisé.
Oui, c'est pas des retraites à taux plein si on n'a pas cotisé assez. Mais tout le monde part à la retraite à 62 ans.
Et c'est assez cohérent, d'ailleurs. C'est assez cohérent.
Attendez, je répète. Oui ? Les gens nés en 62 qui ont 60 ans cette année et qui ont travaillé avant 20 ans, ils partent dès 2022.
Le principe, voilà, c'est 40 annuités pour ceux qui ont commencé à travailler avant l'âge de 20 ans.
Oui.
Et ensuite, c'est le départ légal à 62 ans et vous touchez votre retraite au prorata de ce que vous avez cotisé.
Qu'est-ce qui est faux dans ce que je viens de dire ?
Des espèces de tableaux qui montrent qu'on peut prendre la retraite à 67 ans.
C'est ce qui va se passer, par exemple, pour ceux qui ont des carrières hachées, par exemple.
À taux plein. Vous avez démarré, mais vous êtes entré dans la vie active.
Aujourd'hui, vous avez tout un tas de retraités qui sont, comme vous dites, à la retraite et qui sont obligés de trouver un second travail, précisément, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une retraite digne de...
Vous rentrez dans la vie active pour avoir votre retraite à taux plein, c'est 42 ans de cotisation, c'est ce que dit Marine Le Pen, ça fait 67 ans.
Non.
Mais si.
Vous pouvez partir à 62 ans.
Pardon ?
Vous pouvez partir à 62 ans.
Mais pas à taux plein.
Mais pas à taux plein, c'est ce que je vous dis.
À taux plein, toujours, dans cette discussion.
C'est ce que je vous dis, voilà. C'est tout. Mmh. Mais ça, et on nous a fait croire qu'on était au départ, je me souviens, dans les débats de la dernière présidentielle, on nous disait toujours, mais vous êtes démagos, c'est la retraite à 60 ans. On disait, non, c'est 40 annuités. Voilà. Oui. 40 annuités, vous pouvez prendre votre retraite. Effectivement, si vous rentrez dans le boulot à 22 ans, eh bien, vous partez à 62 ans. Voilà.
Et à 25 ans
Non, c'est 42 annuités, là.
Maintenant. Je vais vous parler de 2017. Pardon, l'évolution, elle est là.
Vous avez tellement changé. Quand je vous ai connu, Louis Alliot, vous défendiez la retraite à 65 ans. Vous étiez directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen.
Oui, monsieur Cohen.
Donc vous avez tellement changé qu'on s'y perd un petit peu. Écoutez, excusez-moi.
Heureusement qu'on change. Oui. Parce que le contexte, il change aussi. Et on voit bien que les retraites aujourd'hui, on le voit tous les jours dans cette campagne électorale, sont un marqueur fort de cette campagne électorale. Et la meilleure preuve, c'est que sur quoi s'est fait interpeller hier M. Macron ?
Bien sûr.
Ben sur ça.
Absolument.
Parce que nous, il s'est fait pilonner, et moi, depuis le soir du premier tour, là, si vous saviez le nombre de mails de gens qui disent surtout, il ne faut pas accepter la retraite à 65 ans, donc le débat, d'une manière ou d'une autre, il va venir sur la retraite, et il faudra trouver
des solutions.
Mais vous-même,
vous avez renoncé à la retraite à 60 ans, ce qui était encore votre programme jusqu'en février dernier. Vous y avez renoncé parce que ce n'était pas février, mais ce n'était pas réaliste.
Parce que
on est bien d'accord.
Parce que c'était trop coûteux pour le budget de l'État. Mais on a trouvé
un
système médian qui coûte quand même, je ne suis pas d'accord avec les instituts Montaigne, mais qui coûte quand même, mais qui permet à ceux qui commencent à travailler tôt de partir plus tôt, et à ceux qui commencent plus tard, viennent de partir plus tard. Alors, sur le chiffre de l'Institut Montaigne, je suis assez surpris de ce chiffrage-là, parce que les gens qui nous l'ont chiffré n'ont pas du tout la même opinion sur le chiffrage de l'Institut Montaigne.
26 milliards d'euros, dit l'Institut Montaigne.
Dès la première année, je crois que ce n'est pas vrai. Moi, j'ai le tableau. Je ne l'ai pas pris avec moi, mais vous n'avez qu'à aller sur le site de Marine Le Pen et vous avez le tableau d'amortissement des retraites, justement.
Ah, il y a un tableau qui comporte une ligne avec le coût de la réforme. Je suis allé le voir tout à l'heure cet après-midi. Sur le financement, quand même, que ça coûte 10, 20 ou 25 milliards, comment vous le financez et comment vous pérennisez le système de retraite ? C'est ça, la question.
Non, mais c'est pour un système global. C'est une économie générale.
Ah bon ?
Et elle a fait une conférence de presse sur l'équilibre de son budget.
Oui, mais sans dire...
sans dire, en faisant des économies sur un certain nombre de postes. Bon, l'immigration, évidemment, la fraude sociale, etc.
Ben ça, c'est pas l'assurance vieillesse. Ça ressort pas de l'assurance vieillesse.
Non, mais d'accord, mais c'est des économies sur le budget de l'État. C'est des économies sur le budget de l'État. Et... en compensation, c'est de l'argent que nous mettrons évidemment sur les retraites et sur d'autres sujets. Parce qu'il n'y a pas que les retraites aujourd'hui qui vont mal en France. Hein. Vous avez plein d'autres domaines où ça va très mal. Et je ne sais pas si on en parlera, mais il serait bon qu'on en parle dans ce débat de deuxième tour. On a 15 jours pour le faire. Hein. 10 jours maintenant.
Marine Le Pen, elle ne s'est pas dit opposée à un référendum sur les retraites comme l'a finalement proposé Emmanuel Macron. Est-ce qu'il faut faire trancher cette question par les Français ?
Écoutez, je pense que c'est quand même une question là, aujourd'hui qui devient centrale, voilà, parce qu'il y a toute une génération qui attend de partir à la retraite et ne savent pas sur quel pied danser, parce que tous les gouvernements depuis 20 ans leur ont dit on va faire une réforme de la retraite, alors une fois, et on augmente petit à petit, et je crois que ce qui a coûté cher à M. Macron en cette fin de campagne, c'est de dire à 65 ans, les Français n'en veulent pas. Donc oui, après tout... un référendum sur cette question de la retraite.
Mais avec quelle question ?
Oui, mais c'est justement en ayant un débat sur un vrai chiffrage, combien ça coûterait à l'État, combien ça coûterait peut-être en augmentation de la fiscalité.
Vous ne l'avez pas fait là encore, alors ?
Si, mais vous me posez une question sur un référendum. Si on porte le débat sur les retraites et que ce débat est national sur un référendum, ce n'est pas une feuille de papier comme ça posée sur une table sur laquelle vous avez discuté. C'est une vraie campagne sur le fond des retraites que nous voulons en France. Et à ce moment-là, il y aura le débat sur la question.
Effectivement, il n'y a pas que la question des retraites, il y a la question des pouvoirs d'achat. Hier, Marine Le Pen a improvisé un déplacement dans Lyon et à Soucy, elle a été interpellée par une boulangère qui veut augmenter ses salariés.
Payer plus mon salarié, mais qu'on arrête d'être surchargé de charges. Quoi.
Ben voilà.
Parce que là, à un moment,
c'est
on n'en peut plus.
C'est exactement le sens de ma proposition.
Nous, on arrive à des mois, on ne se tire pas de salaire.
Et c'est exactement, si vous voulez, le sens de ma proposition. Hein. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'étais en désaccord avec un certain nombre d'autres candidats qui proposaient l'augmentation du SMIC, parce que j'ai dit, attention, l'augmentation du SMIC, vous allez vous retrouver avec des sociétés qui vont être obligées, je veux dire, d'augmenter 6-7 salaires qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les marges. Je veux dire, ça, plus les charges qui
sont
par ailleurs.
On peut augmenter les salaires, mais diminution de charges.
Voilà, mais sans les charges.
C'est ce qu'on voudrait, c'est augmenter nos salariés qui sont là tous les jours, qui se commencent à 4h du matin tous les jours.
C'est exactement le sens de ma proposition.
pas d'augmentation du SMIC. On laisse au bon vouloir des entreprises la décision d'augmenter ou pas les salaires. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui, lui, voulait augmenter le SMIC à 1400 euros net par mois?
C'est deux philosophies différentes. C'est on augmente, soit on augmente mécaniquement et autoritairement le SMIC, soit on dit il y a un problème de pouvoir d'achat et c'est 200 euros par mois qu'il faut donner à chaque salarié. Et donc, il faut prendre un certain nombre de mesures qui permettent de le faire, notamment par la baisse de la TVA sur un certain nombre de produits de première nécessité et notamment sur l'énergie qui pèse aujourd'hui sur le budget de chaque citoyen, enfin en tout cas de chaque travailleur, il pèse de plus en plus. Donc c'est deux philosophies, soit vous le prenez par le bas en disant qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat, soit vous dites autoritairement on augmente le SMIC. Mais augmenter le SMIC, ce n'est pas pour ça que vous allez limiter l'inflation et limiter la hausse des prix, ce qui voudrait peut-être dire que finalement, même si vous augmentez le SMIC, ce n'est pas pour autant que vous allez redonner du pouvoir d'achat aux salariés.
En tout cas, l'addition s'alourdit depuis le début de notre entretien, puisque la baisse de la TVA, on a entendu Marine Le Pen, cotisation patronale supprimée pour les hausses des salaires, augmentation des retraites.
Mais c'est chiffré, M. Cohen. Moi, je veux bien que vous discutiez, mais c'est chiffré, voilà.
C'est chiffré.
Vous avez mais avec quelles ressources, pardon, quelles ressources?
Je vous ai dit,
rien.
Il y a 68 milliards d'économies et 168 milliards d'augmentation, notamment ces augmentations.
Quand vous chiffrez la fraude fiscale ou la fraude sociale à 40 milliards, c'est...
Mais il y a un rapport du Sénat qui la chiffre à 50
c'est
milliards.
C'est l'argent magique.
Mais on l'a pris assez bas, quand même.
Oui.
Mais enfin, il est où? Moi, je remarque une chose depuis le départ. C'est que depuis 30 ans, il y a des grandes personnes comme vous qui faites la leçon sur les plateaux, mais ce n'est pas chiffré, mais l'Institut ceci, l'Institut cela, mais la situation aujourd'hui en France, elle est ce qu'elle est. Et manifestement, ceux qui ont, soi-disant, la science des chiffres, ils n'ont pas grande de la science parce qu'on est quand même dans la panade. Donc, pour une fois, nous n'avons participé à rien en matière de gouvernement, mais si ça se trouve, et moi je pense que c'est le cas, nous avons, nous, les bonnes clés pour ouvrir les bonnes portes pour la suite.
Le MEDEF, il a réagi au coup du programme de Marine Le Pen. L'organisation patronale dénonce une hausse très forte et non financée des dépenses publiques qui risquerait de placer le pays dans une impasse et ajoute que son programme économique conduirait le pays à décrocher par rapport à ses voisins et à le mettre en marge de l'Union européenne. Vous assumez une très forte hausse des dépenses publiques?
Il fait la leçon, le MEDEF, aussi.
Écoutez, plus le MEDEF parle, plus les gens voteront pour Marine. Voilà, il faut quand même le savoir. Et à un moment donné, et je ne vois pas en plus le MEDEF.
Le MEDEF, ça représentait par exemple cette boulangère, c'est
non,
une
non,
patronne.
Non. Allez voir les gens de la CGPME, allez voir les gens des petits commerçants et artisans, vous verrez qu'il y a un peu le discours du MEDEF.
Vous avez lu le communiqué
que
de
les gros,
la CGPME?
Oui, je l'ai lu.
Vous l'avez lu?
Oui, vous inquiétez pas.
Il alerte aussi sur le risque du programme de Marine Le Pen.
Que les gros.
La CGPME dit la même chose que le MEDEF.
Oui, que les gros, comme le MEDEF, soit au chevet de ceux qui en ont déjà beaucoup, ça ne m'étonne pas. Moi, je peux vous dire, et je le vois à mon petit niveau de maire, commerçants, artisans, petites entreprises, etc., sont pas du tout sur cette longueur d'onde. Mais alors, pas du tout. Donc, si on veut continuer avec le MEDEF et avec M. Macron, dans 10 jours, les gens peuvent aller voter, il n'y a pas de souci. En revanche, je pense qu'il faut arrêter ce système-là pour en trouver quand même un autre, et en tout cas pour en rechercher un autre.
Avec qui Marine Le Pen va-t-elle gouverner ? En 2017, elle avait annoncé le nom de son Premier ministre. C'était Nicolas Dupont-Aignan. Là, elle ne donne pas de nom. Pourquoi ?
Parce
les Français
que...
sont pas en droit de savoir.
Bah écoutez,
imaginez quelle équipe
que
va
vous,
en...
Est-ce que vous saviez que M. Édouard Philippe allait être Premier ministre avant l'élection? Vous le saviez, vous?
Non.
Et M. Castex, vous le saviez?
M. Castex, il est venu bien longtemps après l'élection.
Non, mais pour vous dire, voilà, je pense qu'il y a une élection, et une fois...
Mais elle le disait en 2017, ça, c'est pas le cas.
François,
c'est juste la jurisprudence.
Vous avez beaucoup de Castex et d'Édouard Philippe dans votre cachet, dans votre...
Précisément, on en a un certain nombre. Voilà.
Par exemple?
Ah, mais je ne vais pas vous les donner.
Non.
Mais je vais vous donner même... Mais faisons abstraction de ça. Est-ce que François Mitterrand avait annoncé Pierre Mauroy?
Non, mais Pierre Mauroy était un des responsables.
Est-ce que Pierre Mauroy était un énarque?
Connu du Parti Socialiste, il était maire de Lille à ce moment-là. Il dirigeait une grande ville, comme vous, d'ailleurs.
Voilà.
À part vous.
Écoutez, il y aura un résultat. Ce résultat embrayera sur une majorité présidentielle. Et c'est en bâtissant cette majorité présidentielle... Marine Le Pen nommera son gouvernement d'union nationale. Mais donner des noms comme ça, elle en a donné un, parce que celui-là, il ne fait pas débat, c'est Garot.
Pour le garde des Sceaux.
Qui est garde des Sceaux, Jean-Paul Garot.
Il a été nommé 14 voilà. fois déjà.
Oui, fait, lui, voilà, il est magistrat et la réforme de la justice est quelque chose d'important.
Pour l'Union nationale, ça veut dire que vous comptez sur d'autres forces que celles du Rassemblement national.
Ou d'autres personnalités. Pourquoi des forces? Vous voyez bien que les partis politiques
de gauche,
aujourd'hui...
gauche, par exemple
Il peut y en avoir, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des gens de gauche.
À qui pensez-vous?
Il y a des gens de gauche en province qui sont des gens très bien, hein, des élus locaux, et qui partagent avec nous ce sens de l'État, de la France et de la souveraineté. Donc, moi, il ne faut pas s'interdire de ne pas parler aux gens de gauche parce qu'ils étaient, a priori, de gauche avant. Voilà.
En revanche, il n'y aura ni Éric Zemmour, ni Marion Maréchal Le Pen dans le gouvernement que pourrait former Marine Le Pen ou les personnalités avec lesquelles elle pourrait gouverner. Vous acceptez les voix des électeurs d'Éric Zemmour, mais pas question de travailler avec eux. Ils sont devenus infréquentables.
Mais Éric Zemmour ne demande rien. On ne va pas lui imposer quelque chose qu'il ne demande pas. Aucune place, rien. Donc on ne va pas lui dire qu'il va être ministre. Mais c'est des choses qui ne l'intéressent pas, Éric Zemmour. Enfin, je veux dire, il n'a pas fait cette élection pour être ministre de Marine Le Pen. Il faut arrêter. Enfin, il l'a dit lui-même, d'ailleurs. Donc on ne va pas aller chercher quelqu'un qui n'en veut pas.
Il ne s'agit pas de lui proposer, il s'agit de le sortir d'avance, de l'exclure d'avance.
Mais les électeurs d'Éric Zemmour dans cette élection, ils se reporteront, je l'imagine, en faveur de Marine Le Pen. Mais les cadres... Il n'y a pas vocation à ce qu'ils rejoignent. Ils n'ont rien demandé. On verra après s'ils demandent.
Ils ne pourraient pas être utiles.
Mais ce n'est pas une question d'utilité. Là, on est dans une campagne présidentielle. On n'est pas là une addition de partis, précisément. Mmh. On n'est pas là dans une espèce d'union de la gauche à l'époque qui avait mis le PS, les radicaux de gauche et le Parti communiste. On est là entre une femme politique directement avec le peuple et un président de la République sortant qui doit s'expliquer sur son bilan. Gagnons cette élection et derrière, il y aura sûrement des discussions avec des personnalités que vous découvrirez à ce moment-là.
Ce n'est pas des questions absurdes s'agissant de quelqu'un qui n'a jamais exercé de responsabilité.
Marine Le Pen.
Mais est-ce qu'il y a une plus-value sur des gens qui ont exercé une responsabilité?
Ça peut inspirer confiance.
Ah bon? Et alors, dans le gouvernement de M. Macron, des gens qu'on connaissait parce qu'ils étaient des gens connus dans l'expérience. Qui il avait? À part Le Drian, qu'on n'a pas vu pendant 5 ans. Hein. Alors Le Drian, c'est la personnalité, il a été nommé, puis on ne l'a plus vu. En revanche, je sais...
Bruno Le Maire.
En revanche, moi je sais...
Gérald Darmanin.
En Afrique, on sait qui est M. Le Drian, hein, par rapport au soutien d'un certain nombre de chefs d'État qui sont à la tête de dictature, puisque c'est un terme
Qu'est-ce
très plaisant.
Qu'est-ce que vous insinuez, Louis Alliot?
Rien, qu'on a aidé des États qui ne méritaient pas qu'on les aide, c'est tout.
Et que n'aidera pas Marine Le Pen, par exemple?
Elle ne les aidera pas. Elle discutera, parce qu'il faut discuter avec tout le monde, mais j'espère bien qu'elle ne les aidera pas.
Quels États,
par
exemple? Le Congo-Brazzaville, par exemple. On continue à discuter avec M. Sassou Nguesso, mais quand vous discutez avec les Congolais dans la rue, je peux vous dire qu'ils sont bien contents de savoir comment ça se passe là-bas. Mais un exemple, voilà.
La France est un soutien particulier du Congo au Brésil.
Ah oui, oui. Intéressez-vous à la question, vous verrez.
En revanche, on discutera avec Vladimir Poutine?
On discutera avec la Russie. Mm-hmm. Mais dites, quand le président autrichien est allé avant-hier voir M. Poutine, là, quelqu'un lui a dit quelque chose? En exercice, hein. Il est dans l'Union européenne. Il va discuter avec la Russie pour savoir qu'est-ce qui va se passer, comment on fait pour arrêter, pour obtenir un cessez-le-feu, pour arrêter la boucherie qui est en train de se commettre en Ukraine. Heureusement qu'on discute malgré tout avec les dictateurs. Sinon, il faut être honnête.
Alors, vous venez de
attendez,
dire...
attendez.
Jean-Yves Le Drian, lui, ne peut pas, mais Marine Le Pen,
discuter,
elle le fera.
Pas aider. Attention, pas aider, discuter. Pas pareil, discuter et aider.
De
avec
quelle aide parlez-vous?
Avec la Russie.
Oui.
Attendez, avec la Russie, en plus, la moitié de l'Europe vit avec le gaz russe, ce qui est quand même assez particulier. Heureusement que la France a fait le choix du nucléaire contre ça. Mais en ce qui concerne les rapports qu'on doit avoir avec ces pays-là, il faut arrêter, hein, le Qatar, l'Arabie saoudite, un certain nombre, la Chine. Il faut tout arrêter avec ces pays-là. Hein. Si on veut être cohérent, évidemment, on ne le fera pas, parce que la géopolitique, c'est aussi discuter avec des gens qui ne sont pas des démocraties et qui ne sont pas des républiques.
Marine Le Pen au pouvoir, vous n'achèteriez plus d'hydrocarbures à l'Arabie saoudite et au Qatar?
Mais c'est là que c'est le dilemme que je suis en train de vous mettre sur la table.
Non, je vous pose la question.
Je vous dis que si on est cohérent, il ne faut pas discuter avec la Russie, alors à ce moment-là, il faut arrêter de discuter avec d'autres. Voilà ce que je vous dis. Donc, nous avons une économie. Pour que cette économie tourne, il faut bien acheter le gaz et le pétrole quelque part. Et nous avons en face de nous des pays qui ne sont pas forcément des démocraties. C'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà.
Merci beaucoup Louis Alliot d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est l'heure de la story média, la story tout court de Mohamed Bouafsi. Merci beaucoup de votre présence. Mohamed, c'était une prise de position très attendue, celle de Nicolas Sarkozy dans cette campagne présidentielle.
Je voterai pour Emmanuel Macron parce que je crois qu'il a l'expérience nécessaire face à une grave crise internationale. Les mots de Nicolas Sarkozy sont clairs à travers un long message sur Facebook. Un soutien sans faille pour Emmanuel Macron qui a tenu à remercier son prédécesseur quelques minutes après la publication du message.
Je le remercie de sa confiance et de son soutien. Je pense que c'est très important et que ça l'honore et ça m'oblige. Et donc, je pense qu'il faut rassembler très largement. Et j'ai entendu que sur les sujets d'Europe, il se retrouvait.
La candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, a préféré manier l'ironie pour répondre au soutien de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron.
Il a quand même fait preuve d'un minimum d'élégance à l'égard de Valérie Pécresse en n'annonçant pas ce soutien dès le premier tour. Ben, je me demande si je ne vais pas finir par faire des affiches. Parce que rien que Nicolas Sarkozy et le Luxembourg appellent à battre Marine Le Pen, je pense que ça peut débloquer des voix pour moi.
Une autre phrase de ce long message a suscité beaucoup de réactions. Une nouvelle époque s'annonce, elle nécessitera des changements profonds. Il faudra sortir des réflexes partisans. La fidélité aux valeurs de la droite républicaine doit nous conduire à répondre à l'appel du rassemblement d'Emmanuel Macron. Les bonnes relations entre les deux présidents préfigurent d'une sorte de coalition pour le futur. Un proche de l'ancien président nous a confié, Nicolas, vous, une haine profonde à l'extrême droite. Il sait que le pays doit évoluer face à ce danger. Pourquoi ne pas alors créer un grand parti social-démocrate, LREM, LR pour les Républicains modérés et EM pour Emmanuel Macron. Plusieurs élus républicains ont déjà félicité le soutien de Nicolas Sarkozy au chef de l'État et demandent d'aller plus loin.
Sans doute la fin des partis Godillot, des blocs contre blocs, qui étaient inspirés un peu de la suite de la Seconde Guerre mondiale, et plutôt des formations pragmatiques qui s'allient sur des ambitions et des projets concrets, voilà, mais qui gardent bien évidemment leurs idées. Moi, je suis de droite, je resterai de droite. C'est ce que je pratique déjà dans ma municipalité. Moi, mon équipe municipale, il y a des gens qui proviennent de la gauche, il y a des gens qui proviennent de ma formation politique, il y a des gens qui proviennent de la majorité présidentielle, il y a des gens qui n'ont jamais eu un engagement politique. C'est ça, en fin de compte. Mais en fin de compte, la ville... Les villes, c'est un peu la France.
Alors qu'hier, les Républicains réaffirmaient leur indépendance vis-à-vis du président sortant Emmanuel Macron, les LR vivent une nouvelle crise grave. Nicolas Sarkozy désavoue sa famille politique. Ces mots ont entraîné la colère de plusieurs cadres du parti, comme Gérard Larcher, président du Sénat, Bruno Retailleau ou encore Julien Aubert.
Il répond à l'appel du président de la République, donc on sent que tout ça est scénarisé, visant à fusionner les Républicains avec la Macronie. Et en faisant ça, il donne l'impression que l'histoire s'arrête. Voilà. Et en réalité, la droite et les Républicains n'ont pas envie de mourir. Et donc je pense, si vous voulez, que cette proposition ne va pas faire florès au sein du mouvement. Pour moi, les Républicains, c'est la promesse d'une aube, la promesse d'un renouveau, la promesse du retour des idées gaullistes en politique, un changement de ligne est possible. C'est aussi une troisième voie, une alternative à Emmanuel Macron ou à Marine Le Pen.
Bonsoir Raphaël Antoven.
Bonsoir.
Antoven.
Merci, oui.
Philosophe, essayiste, éditorialiste au journal Franc-Tireur, qui titrait mercredi dernier sur les urnes de la colère. Le soutien de Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, ça ouvre une crise supplémentaire chez les Républicains après la défaite historique de Valérie Pécresse. C'est quoi? C'est l'acte de décès officiel de la droite qui a mis quand même un peu plus de temps à mourir que la gauche?
Oui, un peu plus de temps à mourir, d'ailleurs, c'est intéressant. Probablement parce qu'ils ont gouverné il y a plus longtemps, tout simplement. Et puis que la présidence Hollande, par ses atermoiements légendaires, a dû précipiter la chose. Mais ce qui était intéressant, c'est que pendant la campagne, Valérie Pécresse était comme assise sur un vélo dont les roues étaient fixées en sens inverse et qui promettait d'éclater à la seconde où elle-même ne passait pas la barre du premier tour. Donc tout cela était écrit à l'avance. Le soutien de Nicolas Sarkozy m'intéresse dans le contexte un peu particulier d'un deuxième tour très tendu où il y a un tel enjeu. J'y vois aussi, j'ai envie d'y voir aussi la reconnaissance d'un chef d'État d'un ancien chef d'État pour son successeur, enfin pour l'un de ses successeurs, et une façon de dire que l'expérience est importante dans un contexte comme celui que nous vivons.
Emmanuel Macron se dit honoré du soutien de Nicolas Sarkozy. Marine Le Pen ironise, voilà, qu'il appelle à me faire battre peut me faire gagner des voix. Quel est l'enjeu de ce deuxième tour pour le président sortant? Il ne s'agit pas seulement de faire barrage. Non. Parce que cet argument, il ne suffit plus.
Non, non, non. Il ne s'agit pas de front républicain, il ne s'agit pas de faire barrage, il ne s'agit pas de brandir des valeurs absolues, il ne s'agit pas d'élever pour la millième fois une digue poreuse qui ne tiendra pas. Non, ce n'est pas sur le champ des valeurs absolues qu'on peut lutter, c'est sur le champ de la compétence. Comment voulez-vous confier les clés du pouvoir à quelqu'un d'inexpérimenté, de spectaculairement incompétent, de nul en débat, de légendairement paresseux, et d'entouré de néophytes, si vous voulez, et de soumises, de débitrices de la Russie. Donc, voulez-vous cela? Voulez-vous de cela? C'est cette question-là, plus que le fantasme ou le spectre, à mon avis, de l'extrême droite ou l'hydre, qui me paraît efficace.
Voilà. Louis Alliot vient de vous répondre... par avance, en quelque sorte, en disant « Mais regardez, tous les expérimentés ont échoué. On a des expérimentés à la tête du pays depuis des décennies. Et voyez la situation dans laquelle on est. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose ?»
Il est aisé d'invoquer la situation donnée, les problèmes. La France est un pays en bonne santé, ce qui ne veut pas dire que tout va bien. Il y a des quantités de douleurs. Et quiconque a envie de penser que la France est malade pourra prélever dans le réel quantité de choses qui ne vont pas. Il est aisé de pouvoir le dire.
Je pense que c'était une majorité d'électeurs dimanche dernier.
Oui, c'était une majorité d'électeurs.
Ils sont convaincus qu'ils vivent dans un pays qui ne va pas bien.
Bien sûr. Reste que c'est un pays dont le chômage baisse, dont la croissance repart, qui a 10 fois l'influence de sa taille. Bon, il y a pire, si vous voulez. Il y a pire. Et puis surtout, il y a la question de savoir, quel que soit l'état du pays, si l'on souhaite en confier les rênes à quelqu'un qui n'a jamais gouverné. Bon, ça reste un argument.
C'était aussi le cas d'Emmanuel Macron.
C'était le cas d'Emmanuel Macron, absolument. C'était un saut dans l'inconnu quand il a été élu.
Ce que vous dites, c'est que la France, c'est un malade imaginaire.
Je mets quand même un bémol à ça, parce qu'il avait passé quand même 5 ans à l'Élysée. Et d'ailleurs, son opposition avait beau jeu de dire « ça fait 10 ans qu'on a Emmanuel Macron ».
Vous dites que la France est un malade imaginaire. En gros, c'est comme ça que vous expliquez cette...
Pas un malade imaginaire. Je m'étonne qu'un pays, encore une fois, qui est en bonne santé, qui fonctionne, qui vit, qui repart, qui a de l'influence, qui est en pointe de la lutte contre l'islamisme, dont la bouffe est sublime et dont l'équipe de foot est championne du monde. Je veux dire, je m'étonne que ce pays-là joue au con à ce point avec son bulletin dans l'urne. C'est ça qui me fascine, c'est ça qui m'intéresse. En fait, j'essaie de comprendre d'où vient cette capacité qu'on a à nous nuire quand il n'y a aucune raison à cela. Et surtout, le paradoxe qui est intéressant, c'est l'idée que on a voulu penser que la France était une dictature. C'est un refrain qu'on a beaucoup entendu, que les mesures... Paradoxalement, la plupart des gens qui disaient qu'on était en dictature étaient pleins de mansuétude pour Vladimir Poutine. Bon, ça, c'est un des paradoxes. Mais on a voulu dire ça, on a voulu penser ça. Le résultat, c'est que certains croient sincèrement se libérer d'une dictature en se débarrassant d'Emmanuel Macron. Ceci me paraît fou, délétère et surtout produire la dictature qu'on prétend abolir.
Vous dites que le pire ennemi de Macron n'est pas Le Pen, mais l'ennui démocratique, ce qui expliquerait le fait qu'on joue à se faire peur en quelque sorte et qu'on pense qu'en se débarrassant d'un président sortant, on se débarrasse des problèmes qu'il n'a pas su régler.
Oui, alors l'ennui, c'est l'ennui au sens 17e siècle, si vous voulez. C'est pas juste quelqu'un qui s'emmerde, si vous voulez. Même si quand on s'emmerde, on découvre soudain l'abîme de l'ennui. Non, c'est l'ennui au sens très fort. Dans l'Orient désert, quel devint mon ennui? C'est terrible, quoi. C'est la grande douleur. C'est une tragédie, l'ennui. Et en fait, ce qui se passe en démocratie, c'est que vous êtes à la fois libéré, naturellement. Vous êtes nanti de droits que vous n'avez pas sous d'autres régimes, sous d'autres cieux. Mais vous êtes libéré et dépourvu d'horizon. C'est-à-dire qu'on ne vous propose aucun au-delà. Il n'y a rien à vaincre, d'une certaine manière. Il n'y a aucune adversité considérable. Et donc, la démocratie confronte les gens qui y vivent, qui ont la chance d'y vivre, à la difficulté de maintenir la liberté, plus que de la défendre. Et ceci est un casse-tête. Ça donne, sur les réseaux sociaux, des phénomènes de censure dans des endroits qui pourtant célèbrent le débat. Et la liberté, de cette manière-là, me paraît dépérir, faute d'adversaire, si vous voulez. Et dans le cas politique qui nous occupe, il est très frappant de voir qu'en France, à mon sens en tout cas, il n'y a pas d'opposition. Il y a des opposants, mais qui s'opposent entre eux et qui ne peuvent pas constituer une force homogène, rigoureuse, qui tout simplement transformerait, comme ça devrait être le cas et comme ça l'a été longtemps, une élection en alternative. En alternative, Giscard, Mitterrand, Chirac, Mitterrand, bon, on discute. Chirac, Jospin, bon, voilà, on est dans un monde normal, si vous voulez. Là, c'est compétence ou chaos, si vous voulez. Et ceci me paraît extrêmement dangereux. On ne peut pas jouer une élection à pile ou face à chaque fois.
Jean-Luc Mélenchon a appelé ses électeurs à ne pas donner une seule voix à Marine Le Pen. Il l'a répété 4 fois. Oui. Et pourtant, une partie d'entre eux se disent prêts à voter pour la candidate Rassemblement National.
Je vais rester là. Donc c'est la seule manière. Et après, Mme Le Pen montrera elle-même qu'elle est incompétente. Donc c'est la solution, on fera coup double.
Quand on va à l'étranger pour insulter les Français, on est comme en gaulois réfractaire ou tout ce qu'il a pu dire. Non, je ne peux pas revoter pour une personne comme ça, qui m'a insulté et que je vais revoter pour lui. Ça m'est impossible.
Je pense que ce qu'il vit lui au quotidien, c'est pas ce que je vis moi en tant que maman de deux enfants. Donc je ne voterai pas pour un banquier.
Raphaël Enthoven, selon l'IFOP, près de 30% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon se disent prêts à voter Marine Le Pen.
Bah oui, c'est
ça
normal.
Ça vous étonne ?
Mais non. Bah, écoutez, des gens qui considèrent que l'OTAN est un danger, que Macron est un dictateur, que l'oligarchie règne, que la médiacratie gouverne, que nous sommes tous des médiacrates, que l'hydroxychloroquine est un médicament miracle et que Vladimir Poutine est un sauveur. Il y a des tas de gens, pour penser comme ça, qui ont voté Mélenchon et qui, pour cette raison, ne voient aucune raison, et je les comprends, de ne pas voter Marine Le Pen au deuxième tour. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est la fameuse consultation que les Insoumis ont organisée dans l'entre-deux-tours, comme en 2017, pour savoir quel serait le comportement des 310 000 militants de la plateforme de l'Union populaire. Alors, ils ont organisé cette grande consultation avec trois termes, vote blanc, abstention ou Macron. Et quand on leur demande, et Marine Le Pen, ça, non, ça n'est pas une option. Mais ce n'est pas une option pour eux, mais c'est une option pour 30% à peu près des Insoumis, en l'occurrence. Qu'est-ce qu'ils font de cela ? Eh bien, ceux-là n'ont même pas le choix. On ne leur propose même pas cette hypothèse. La vérité, c'est que, comme Chirac en 2002, on brandit des valeurs absolues pour mettre la tête dans le sable. C'est ce que font les Insoumis en la circonstance. Et de la même manière, d'ailleurs, qu'en 2017, il ne dit pas une voix pour Marine Le Pen, mais il ne dit pas voter Macron. C'est la même chose pour moi.
Et d'autres Insoumis disent devoir choisir entre la peste et le choléra. Oui. Vous avez notamment publié un tweet où vous évoquiez ce sujet. L'année dernière, vous aviez tweeté que si vous aviez à choisir entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon au second tour, vous opteriez pour Marine Le Pen. Est-ce que vous regrettez ?
Mais tellement, vous ne pouvez pas savoir. Mais tellement, c'était tellement con d'avoir écrit ça. C'est fou. En plus, c'était l'épilogue d'un thread où j'expliquais que Marine Le Pen était complotiste, séditieuse, factieuse, paranoïaque, incompétente, etc. etc., etc. J'en faisais des caisses. Justement, l'idée était pour moi, stratégiquement, de les mettre dans le même camp, au point même que la question se pose de savoir pour qui on vote s'ils se font face. C'était con. On me l'a reproché tellement. Alors, ce qui est marrant, cela dit, une fois que j'ai dit ça, c'est que quantité de gens qui me reprochent, mais qui me l'ont reproché, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point, de l'avoir dit, s'apprêtent aujourd'hui à voter Marine Le Pen. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire des gens qui disent « Vous avez osé dire qu'entre Mélenchon et Le Pen, vous voteriez Le Pen ?» C'était con, je l'ai dit maintes fois, mais bon, je ne peux pas ne pas l'avoir dit. Et ils disent eh bien, nous allons voter Le Pen contre Macron. Ça me fascine. Voilà.
Cet après-midi, Marine Le Pen a organisé une conférence de presse sur les thèmes de la démocratie et de l'exercice du pouvoir. Interrogée sur le fait de trier les journalistes qui ont droit ou pas de couvrir ces conférences, sorties, meetings, voilà ce qu'elle a répondu.
Ah non, mais les journalistes, il n'y a pas de journalistes chez Quotidien. Ah non, mais pardon, si c'est que Quotidien, s'il n'y a que ça. Non, Quotidien, c'est pas une émission d'information ou de journaliste. Quotidien, c'est un amuseur. Parfois très drôle d'ailleurs, hein, je dis pas. Hein. Mais c'est une émission de divertissement.
Merci.
Ah oui, vous voyez, je suis chez moi. Ben oui, je suis chez moi, hein, donc dans mon QG et dans mon mouvement, Monsieur de Libération, qui a toujours eu et été accueilli d'ailleurs, hein, en toutes circonstances. Ça fait des années, si, c'est moi qui décide.
C'est moi qui décide, je suis chez moi. Mais dans la même conférence, elle s'est émue de la manière dont Emmanuel Macron, lui, traite les médias. Elle a d'ailleurs tweeté « Je ne compte pas les médias obligés d'annuler les programmes, publications, émissions à cause du refus du président de la République de participer. Il y a une vraie rupture démocratique.
» Oui, non, ça c'est ridicule. Non, je voudrais revenir sur sa déclaration précédente, c'est-à-dire, d'abord, ça me permet de dire du bien de Quotidien ici, ce qu'il faut toujours faire, parce que c'est vraiment injuste, il y a vraiment d'excellents journalistes là-bas, et puis surtout, le droit qu'elle s'arroge de décider qui est journaliste et qui ne l'est pas dans son QG, c'est-à-dire à l'avenir, si elle est présidente en France, est une chose absolument terrifiante. Et je veux insister là-dessus parce que la détestation des journalistes n'est pas une chose neutre. C'est comme détester les partis, les syndicats, les associations, c'est détester les intermédiaires. C'est faire comme si le filtrage d'un savoir brut était une captation du savoir, était une dérobade, était une façon de voler le savoir aux gens qu'on prétend informer. Et ceci est gravissime. Ce qu'elle implique là-dedans me paraît terrifiant. Voilà.
Vous dites Zemmour a voulu dynamiter Marine Le Pen, il l'a dynamisé. Les médias, oui. Est-ce qu'ils ont aussi une responsabilité dans tout ça? La journaliste Laura Adler a voulu faire un mea culpa dans l'émission, c'est ce soir sur France 5.
Oui. Et je voudrais faire un mea culpa en tant que journaliste. Je pense que nous sommes très nombreux à être concernés par ce mea culpa. Je pense que nous avons participé à la bulle médiatique et à la construction de la candidature d'Éric Zemmour. Et je pense que la candidature d'Éric Zemmour et ce nom qui a été invoqué tous les jours, plusieurs fois par jour, qui a tourné comme ça en boucle pendant plus d'un mois, même deux mois, a légitimé complètement une espèce de normalisation et de côté gentil, sans ajouter les chats et la coloc, de Marine Le Pen qui s'est installée dans notre univers quotidien.
Vous êtes d'accord avec ça ?
Bah, il y a deux choses. D'abord, il y a les conséquences de l'irruption d'Éric Zemmour sur le paysage politique qui, de fait, a gauchi un peu Marine Le Pen, l'image de Marine Le Pen, et l'a normalisée. Ça, c'est incontestable. Moi, sur le mea culpa, je ne suis pas du tout de son avis. Éric Zemmour était un phénomène tout à fait atypique, un trajet atypique, une trajectoire atypique. Il voulait porter le débat, disait-il, à hauteur de civilisation. Ça méritait que tout le monde s'y intéresse. C'est normal qu'on s'y soit intéressé. Et ça n'a rien donné. Il a fait un score lamentable. Les gens sont moins influençables que Mme Adler ne le pense.
Et ça a été le seul, Éric Zemmour, à payer son poutinisme ?
Je ne crois pas qu'il ait payé son poutinisme, je crois qu'il a payé son péténisme, ce n'est pas tout à fait le même mot, et qu'il a payé aussi le fait d'avoir douté de l'innocence de Dreyfus. Il a payé le fait d'avoir allègrement franchi quelques barrières comme ça, qui étaient vraiment des limites sacrées. Il a payé le fait de croire qu'on allait réconcilier les Français avec eux-mêmes en les réconciliant avec Maurras. C'est complètement idiot, en fait. Donc, le jeu était biaisé d'emblée. Le point de départ, à mon avis, je l'ai toujours dit, j'étais même à l'invitation de Marion Maréchal, aller le dire devant lui, je ne pensais pas que cette affaire-là pourrait marcher en aucune façon, parce qu'on ne se donne pas le rejet pour projet. On ne se donne pas le passé pour avenir, et c'est ça qu'il a fait.
Demain, la une de Franc-Tireur, vous la connaissez déjà ?
Ah oui, attendez, qu'est-ce qu'on fait demain ? Oh ben oui, demain, la une de Franc-Tireur, je la connais bien sûr. Il est question de Marine Le Pen. Marine Le Pen avec un... De mémoire, mais je ne veux pas déflorer le dessin remarquable de Margot Lemeur, mais enfin, Marine Le Pen et Poutine, si vous voulez, et Trump surtout. Marine Le Pen, Trump, Poutine, quelque chose comme ça. En tout cas, ce sera là-dessus, c'est sûr.
Votre livre Krasnaya est toujours disponible dans toutes les bonnes librairies. Il est paru aux éditions de l'Observatoire. Vous restez avec nous, on continue d'évoquer l'actualité. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Mathieu, retour en Ukraine ce soir à Marioupol. Les forces ukrainiennes se préparent à la chute de la ville.
Oui, la ville est déjà détruite à 90%. Le maire affirme que 10 000 civils au moins sont morts pendant les plus de 40 jours de siège de Marioupol, un bilan qui pourrait être doublé. Il accuse les Russes d'avoir apporté des équipements de crémation sur place pour se débarrasser des corps, des preuves. Marioupol, dont les séparatistes pro-russes affirment avoir pris le contrôle du port, port stratégique au sud de l'Ukraine. Les civils sur place qui se préparent à faire face à une nouvelle bataille entre l'armée ukrainienne et les forces russes. Et à Marioupol aussi, la question des armes chimiques posée à nouveau. Écoutez ce que dit le gouverneur séparatiste de la région. Je le précise, c'est un pro-russe.
Поэтому брать данный объект штурмом, ну давайте так, смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потери как таковых не понесет. Поэтому на данный момент нужно разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы, в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор.
C'est assez clair comme menace pour ce qui est des armes qui auraient été utilisées déjà. C'est le régiment Azov qui accuse le premier depuis hier. Azov est un bataillon d'extrême droite, groupe controversé au sud-est de l'Ukraine. C'est la région justement de Marioupol. Ils affirment que les Russes ont utilisé, je cite, « une substance toxique d'origine inconnue, larguée, je cite toujours, par un drone ennemi ». Accusation reprise à demi-mot par Volodymyr Zelensky.
Сьогодні ж з боку окупантів пролунала нова заява, яка свідчить про підготовку ними нового етапу терору проти України та наших захисників. Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно.
C'est Londres et Washington qui se sont saisis de ce dossier et qui vont enquêter.
We are working urgently to understand whether or not chemical weapons have been used. And if they have, as the Foreign Secretary has said, the people responsible will be held to account. The use of chemical weapons is abhorrent. It does cross a line. And all options are on the table for how we would respond.
Le gouvernement britannique, quelques jours après la visite de Boris Johnson à Kiev et après Paris et Berlin, la capitale anglaise fait aussi l'objet d'un montage vidéo impressionnant relayé par les Ukrainiens appelant à l'aide. On avait vu des images similaires pour Paris et Berlin. Ces montages vidéo, ils vous inspirent quoi ?
C'était le commentaire de l'ambassade de Russie. Regardez les fake news qu'envoie l'Ukraine. C'était extraordinaire. C'est-à-dire que l'Ukraine, évidemment, ne prétendait pas montrer le bombardement de Paris, mais l'ambassade de Russie s'en était servie pour dire à quel point l'Ukraine mentait. Et en fait, ça renseigne sur la propagande russe et c'est un mystère. Je ne comprends pas pourquoi ils sont si mauvais. C'est-à-dire, pourquoi les Russes se soucient-ils si peu d'être crus ? Alors, deux hypothèses. Soit ils sont vraiment complètement idiots, complètement nuls, soit, deuxième hypothèse, c'est un élément de la terreur. C'est-à-dire que c'est un élément supplémentaire de terreur. On ne se cache même pas de ce qu'on fait. On se cache à peine de ce qu'on fait pour que vous sachiez bien qu'on le fait. Un peu comme Poutine se cachait à peine d'avoir fait assassiner certains opposants, si vous voulez. Voilà.
Pendant ce temps, l'offensive russe sur l'est du pays se poursuit.
Oui, alors on a parlé de la chute prochaine, je mets des guillemets, de Mariupol. Ici, à présent, c'est Kharkiv. Comme tous les jours, ou presque depuis le début de la guerre, il y a un mois et demi, la deuxième ville du pays frappée ces dernières heures. Et tout le week-end dernier, ça c'est la ville de Kharkiv. À l'écran, à présent, la ville de Novo-Aïdar, bombardée elle aussi, ça c'est dans le Donbass, à 100 km seulement de la frontière russe. Une ville cependant où les Ukrainiens ont détruit un dépôt d'armes russes, ce sont les images que vous voyez. Sur le front diplomatique, on l'a évoqué un peu plus tôt, le chancelier autrichien Karl Nehammer s'est rendu à Moscou. C'est le premier dirigeant européen à être reçu par Vladimir Poutine. Il n'en est pas ressorti optimiste.
Ich habe generell keinen optimistischen Eindruck, den ich Ihnen mitbringen kann von diesem Gespräch mit Präsident Putin. Die Offensive wird offensichtlich massiv vorbereitet. Die Reaktion war, so wie ich es Ihnen beschrieben habe, ein Misstrauen gegen die internationale Staatengemeinschaft im Sinne einer Einseitigkeit.
On part en Chine à présent, à Shanghai, où près de 25 millions d'habitants sont confinés.
La capitale économique chinoise fait face à ce qui serait sa plus forte poussée de contamination au Covid depuis le début de la pandémie. On fait toujours attention avec les chiffres en provenance de Chine, bien sûr. On vous a montré des images de la ville vide. Vous voyez là un hôpital de campagne installé à la hâte, 40 000 places. Toute personne positive y est placée à l'isolement. Pas de fenêtres, des lumières allumées 24 heures sur 24, masque obligatoire, bien sûr, de l'eau froide pour se laver, pas de savon et peu d'informations finalement pour ces patients en quarantaine, y compris pour les étrangers sur place.
People were getting more and more anxious. People starting arguing with the medical staff on a regular basis. I think the frustration is coming from people not being clear about when are they going to leave, how many tests you need to leave.
Washington rappelle les personnels non essentiels de son consulat. Il faut dire que la Chine pratique toujours sa stratégie zéro Covid, ce qui explique ces mesures drastiques mises en place. Et c'est clairement une autre société. Vous allez voir là, regardez ces chiens robots chargés de vérifier les passes sanitaires, quand ce même genre de robot n'est pas chargé de patrouiller. Alors le confinement décidé à Shanghai ralentit toute forme d'activité économique, commerciale. Et vous voyez ces bagarres devant un magasin fermé. Beaucoup d'habitants confinés chez eux se plaignent de difficultés à obtenir de la nourriture qui manque. Et ces manifestations extrêmement tendues, on est toujours à Shanghai, capitale économique de la Chine, où 23 000 nouveaux cas étaient encore dépistés hier. Des tensions qui s'expriment désormais à la fenêtre des habitations. Écoutez, ces habitants, ils protestent dans une ambiance quasiment de film d'horreur. Ça, c'est Shanghai ces derniers jours. Et là aussi, les Chinois ont ce qu'il faut en termes de robots, un drone en l'occurrence, chargé de rappeler les habitants de ces immeubles à l'ordre.
Patrick, et une réaction d'appel.
Non, c'est l'image des cris extraordinaire. Et tout à l'heure, le glaçante. Correspondant de Radio France à Pékin racontait l'histoire. En fait, c'est un habitant qui a commencé à crier. Les autres se sont agrégés, se sont mis. Donc, ce n'était pas des cris d'horreur, ce sont des cris d'alerte et de protestation. Mais le lendemain, les autorités ont assoupli les mesures de confinement dans certains quartiers. Et donc, on...
Pour éviter ces manifestations.
Absolument, on choisit d'essayer de se concilier avec ses habitants plutôt que de d'appuyer sur le bouton répression.
Raphaël.
C'est terrible ces cris. Mais moi, c'est la parole du drone. Contrôlez vos envies de liberté. C'est-à-dire que c'est un monde où un drone se met à ta fenêtre et te dit contrôle tes envies de liberté. Voilà.
Oui, bah voilà.
Je n'ai pas de commentaire, en fait. Pardon. Je découvre ça.
Bon, ne contrôlez pas vos envies de liberté. Mathieu, parlez-nous de la présidentielle et des candidats en difficulté financière.
Ah oui, alors on le disait hier, Valérie Pécresse et Yannick Jadot ont lancé des appels aux dons. Ils sont arrivés sous les 5% et ne seront pas remboursés de leur campagne. La candidate Les Républicains endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros qui appelle à l'aide. Iban Raïs et Michaël Robert sont partis à la rencontre, à la recherche de soutien de Valérie Pécresse dans Paris. Vont-ils donner pour aider la candidate malheureuse?
En aucun cas, je donnerai pour Valérie Pécresse. Je trouve ça indécent. Je trouve que c'est complètement fou. Quand on a autant d'argent comme elle, eh ben non, on assume. Hein.
C'est pas à moi de rembourser, même si j'ai voté pour elle. Prête à donner un peu d'argent, non, je vois pas pourquoi.
Mais elle est endettée à hauteur de 5 millions d'euros.
Je sais, moi, je suis peut-être endettée aussi. Voilà, chacun ses problèmes. Oui.
Je préfère aller aider Jadot.
Quand on fait quelque chose, on réfléchit quand même et on prend le risque. À son niveau, ça me semble indispensable. Quand on a un emprunt de 5 millions, on y réfléchit sérieusement quand même.
Ben, LR se débrouille, non? Il savait ce qu'il risquait.
Je ne vois pas pourquoi je donnerais à Valérie Pécresse et pas à quelqu'un d'autre. Il y a d'autres cas de figure qui sont plus importants à donner. Voilà, je pense à l'Ukraine.
Il y a aussi... Bertrand Chamerois a donné hier soir. Hein.
Oui, il a donné bien ça.
Il a donné.
Il l'a donné, vous avez vérifié. Il y a aussi ces anonymes qui postent des photos de leurs chèques de 0 euros et 0 centimes, des chèques envoyés au siège des Républicains à l'attention de Mme Valérie Pécresse. Regardez, il y a une enveloppe.
On va faire ça. Donc, il dépense le timbre pour envoyer un.
Il y a beaucoup de détails. Et puis, il y a Jean de la Salle, le candidat arrivé 7e sur 12 avec 3,1% des suffrages. Je cite son tweet. Devant les difficultés financières du PS, LR et Europe Écologie, Les Verts, Résistons France, c'est son parti. Résistons France a décidé de faire un don à chacun d'eux. On a souvent besoin d'un plus petit que soi, écrit-il pour terminer son.
Il n'y a pas le montant sur le chèque.
Non, il n'a pas voulu.
Écoutez, Iban Raïs et Michaël Rabert sont allés lui demander, lui poser la question et puis lui demander quel était le sens de cette démarche.
D'où vous est venue cette soudaine générosité pour les partis qui sont endettés?
Mais d'un moment de joie, je dois dire, parce que nous étions hier soir en comité de campagne, et il y avait le trésorier, il dit, mais moi j'ai le chéquier. Et il me porte le chéquier, et puis j'ai donné un don. Voilà, je me suis dit, après tout, pourquoi pas.
Vous avez fait un don de combien? On a tous envie de savoir.
Ah oui, mais ça c'est mon petit secret, parce que quand tu fais un don, tu ne le dis pas.
Vous pensez que ça va être bien pris de la part de Valérie Pécresse, Anne Hidalgo et Yannick Jadot?
Si vous êtes en train de vous noyer... Et que personne ne vous répond, mais vous vous noyez avec un désespoir total. Vous mourrez dans des conditions atroces. Si au contraire, quelqu'un dit « Ah, je t'ai entendu, je te donne un coup de main », ben vous dites « Si quelqu'un te envoie une bouée, t'es quand même fou de joie.
D'où qu'elle vienne, en fait.
Mais d'où qu'elle vienne. Tu ne regardes pas à ce moment-là d'où elle vient. Tu te dis « Ah, punaise, quelle chance !» Et tu sauterais au cou de celui qui t'a fait le don de la bouée.
Dans la salle au micro d'Iban Raïs.
Voilà. Mais pas d'informations sur le montant
non,
des
on n'a pas le montant, il n'a pas voulu.
Merci beaucoup Mathieu Béliard, merci beaucoup Raphaël Antoven d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Dans un instant, Dalida disparue, c'était il y a exactement 35 ans, déjà 35 ans. C'est le titre d'un coffret qui sera disponible avec tous ses plus grands succès, dont une version inédite de Mourir sur scène, sublime. Chanson peut-être la plus emblématique de la fin de carrière de Dalida. On en parle avec son frère et producteur et directeur artistique Orlando. A tout de suite pour le dîner de C'est à vous avec Mohamed et Didier Patrick.